Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Samedi en France. Vous savez, c'est cette émission qui vous parle justement de la France et plus précisément qui vous présente des sites que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas pas encore. Exemple, un château du Périgord qui raconte à lui tout seul 1000 ans d'histoire de la région. Ensuite, direction l'Orne pour découvrir une vraie curiosité, c'est le dernier fabricant d'aiguilles et d'épingles en France. Mais oui, ça se fabrique, et autrefois il y en avait plein, et ben là, c'est le dernier. Visite des ateliers du musée, parce qu'il y a un musée là-bas, un musée unique pour ce type d'industrie. Juste après, nous vous proposerons de partir à la conquête de deux des plus grands terrils d'Europe. 200 mètres de haut, c'est vous dire, une balade évidemment hors norme, évidemment. Tout de suite, un site insolite. On va commencer par ça. Que diriez-vous de dormir dans une œuvre d'art? Oui, vous avez bien entendu. Une œuvre d'art. Direction les Hautes-Alpes, avec notre guide du routard. Pour l'occasion, guide de haute montagne, même s'il peut avoir le vertige, le petit gamin, c'est Clément Terruis. On vous propose de faire halte dans les environs d'Embrun, charmante station de montagne, en hiver, qui se transforme en été. En quoi? Eh bien, vous faites quelques kilomètres, et là, devant vous, le parcours des fées. Alors, les fées, de qui s'agit-il? Bonjour, Gavitz.
Bonjour, William. Alors, de qui s'agit-il, en effet, ou de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un parcours artistique et poétique en plein air. Déjà, ça, c'est un concept. J'aime bien. C'est beau, non? Ça dure 2 heures et ça convient vraiment à toute la famille Vauvert.
Pourquoi vous dites poétique?
Bah parce que en été, chaque année, ce sont plusieurs artistes qui ont carte blanche en fait pour créer un parcours artistique qui est fait de sculptures, de photos, d'installations diverses. Tout ça dans la montagne, dans la forêt. On est au milieu des cascades et des rivières. C'est vraiment très très poétique.
Jusque là, on voit à peu près comment ça se passe. Alors vous disiez à un instant qu'on pouvait. Alors là, ça commence à devenir insolite. Qu'on pouvait dormir dans une œuvre d'art. Ça, c'est original, non?
Ouais, elles ont été, en fait, des œuvres spécialement créées pour cet usage. C'est des cabanes où vous pouvez, ou des cabanes ou des maisons où vous pouvez dormir, et ce sont des cabanes créées par des artistes.
Bon, alors ça mérite des explications. Nous sommes en ligne avec Éric Leray, qui est le fondateur de l'association Fées comme les fées, hein. Plus loin, divers, jeu de mots. Bonjour Éric, racontez-nous.
Oui, bonjour.
Alors, à quoi ressemble ce parcours des fées, et d'abord, pourquoi ce nom?
À chaque fois, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, quand on parle d'art contemporain dans un milieu rural, on essaye un petit peu de déstresser les gens, ça peut être des gros mots, donc on dit voilà, parcours poétique, artistique, ce qui calme un petit peu tout le monde.
D'accord. Y a combien d'œuvres sur ce parcours?
Alors sur ce parcours, voilà, chaque année, on en ajoute à peu près 5 ou 6 projets. Ah. Donc elles s'accumulent, il y en a d'autres effectivement qui disparaissent, divers s'en occupent. Et nous sommes actuellement à 35 œuvres, et là nous allons avoir une résidence en fin de mois de juin qui va porter à 40-41 sculptures, œuvres sur le parcours.
Alors, les œuvres, vous venez de le dire, changent assez souvent, mais il faut expliquer quand même, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas eu la chance pour l'instant de voir ces œuvres, c'est que ce sont des œuvres assez gigantesques, quoi. C'est pas des petits objets, hein, parce que là, par exemple, j'ai les poissons, moi, devant moi, mais ça fait combien, quoi? Je dirais...
Ils font 8 mètres de long.
8 mètres, j'allais dire 10. Oui, 8 mètres de long. Mais c'est immense. Et c'est toujours plutôt de cette taille-là.
C'est ça. Nous avons commencé très, très doucement il y a à peu près une quinzaine d'années. Maintenant, nous avons une bourse qui est assez conséquente et qui attire des artistes un petit peu de renommée internationale.
Ah oui.
Et effectivement, quand on travaille sur un décor qui est assez gigantesque, tel que les Hautes-Alpes, hein, on est sur des sommets qui culminent à 2800 mètres au fond de la vallée, et ben il va falloir effectivement commencer à faire des choses un petit peu grandioses si on veut qu'elles se
voient pas. C'est ça, il faut qu'elle se remarque. Ça servira à rien de mettre une petite cuillère en bois, comme on voit parfois dans des festivals d'art contemporain, et avec 3 cailloux à côté, quoi. Et une boîte d'allumettes usée. Non, là, c'est autre chose. Hein.
Sent le vécu.
Ça se voit de loin. Alors, Gavitz parlait de forêt et de cascade. Il y a tout ça, là?
Ah oui, c'est une vallée qui est vraiment formidable. Moi, je suis arrivé ici il y a 25 ans. C'est la première randonnée que j'ai fait. Déjà, c'est une boucle. qui est assez rare, qui se termine tout au fond de la vallée par une grosse cascade qui est assez immense et assez impressionnante au printemps. Et on revient par la forêt. En fait, il y a tous les alpages, mis à part le glacier, on touche pas la neige, oui. Mais il y a vraiment tous les paysages alpins. Le pierrier, la pelouse, la forêt, la clairière.
D'accord.
Le torrent, etc.
Alors, on va en venir aux hébergements maintenant, parce que vous avez dit qu'il y a des dizaines d'œuvres, mais on peut pas dormir dans chacune d'entre elles, hein, je suppose, quoi.
Non, pas toutes, effectivement. Il y en a qui sont effectivement consacrées à vivre une expérience artistique dans les cabanes. Alors, on parle pas d'hébergement, parce qu'on n'est pas des hébergeurs.
Ah, pardon.
Les gens.
Ah oui, oui.
Voilà.
Sinon, vous paieriez la taxe de l'hôtellerie. Voilà. Non.
Cabanes. Puis on ferait concurrence aussi.
Non. Madame, monsieur, le responsable préfectoral. Non, ce sont des cabanes.
C'est ça. Alors, elles ont toute la particularité d'avoir un toit transparent. C'est-à-dire qu'on interroge entre le dehors et le dedans. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression qu'on est dehors. Et quand on est dehors, on a l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de très cosy, sous les étoiles. Et là, c'est vraiment Star Wars.
Ouais, ça doit être assez rigolo. Je suppose qu'on doit réserver son site pour dormir, non ?
Oui, c'est ça. Alors, on a un site en ligne qui propose toutes les nuitées qui sont disponibles. Là, par exemple, la cabane du berger, qui était une ancienne cabane qu'on a restaurée, est quasiment complète. Et voilà, c'est un don qu'on fait à l'association. Ça, c'est à peu près 97 euros. Et c'est important de noter que c'est un don, puisque c'est défiscalisé. Ça donne une réduction d'impôt.
Mais est-ce que toutes ces cabanes dans lesquelles on dort sont quand même aussi un peu ou beaucoup des œuvres d'art ?
Oui, parce qu'elles ont été restaurées par des artistes, enfin c'est par moi-même d'ailleurs, parce que c'est moi qui m'occupe un petit peu des cabanes. Et à l'intérieur, on a une décoration, enfin on a un geste architectural quand même, même si des fois on le restaure. Et surtout, on a des friandises numériques. Pourquoi ? Parce que Fediver est une association qui est un centre d'art numérique. Et à l'intérieur, il y a des petites surprises, alors que je peux pas dévoiler ici.
Ouais.
On essaye de le garder un petit peu secret. Mais voilà, on a quelques propositions qui nous permettent de passer quasiment une nuit blanche.
D'accord. Oui, très bien. Préparez-vous donc. Il y a des animaux qui habitent dans le coin aussi ?
Ah oui, on peut découvrir des bouquetins, des marmottes, bien entendu, autour de nos cabanes, des chevreuils, des sangliers, j'ai même déjà aperçu des renards. Donc tôt le matin, effectivement, on peut jeter un œil par ces ouvertures transparentes et puis observer la faune qui s'éveille.
Voilà, et puis on fait connaissance des voisins, éventuellement. Bon, ben voilà, pas mal cette visite-là. C'est un parcours artistique, donc dans un cadre bucolique. Moi, je trouve que c'est un mélange très original. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bon après-midi.
Merci, William. Bon après-midi à vous.
Alors, Gavin, combien ça coûte cette promenade dans ce lieu-là et cette résidence ? Il faut pas dire résidence. On dort dans la cabane.
c'est pas très cher. C'est 2 euros par personne pour faire le parcours.
Ah, c'est bien.
Parcours des fées, comme on l'appelle. 1 euro pour les moins de 12 ans. Donc vraiment, c'est bon marché. Et pour dormir donc dans une œuvre d'art qui n'est pas un hébergement, mais une cabane, c'est 97 euros, l'entendu, pour deux personnes.
Bah, c'est moins qu'une chambre d'hôtel.
Défiscalisé en plus, donc c'est super.
Y a une adresse pas loin pour faire le plein de produits locaux.
Ah oui, alors on va aller à Embrun. Je vous conseille la maison La Morlette. Déjà, c'est un programme rien que dans le nom. C'est une boucherie charcuterie qui travaille avec les éleveurs des Hautes-Alpes.
Ah oui.
Bien connu notamment pour le Barcelo. Le Barcelo, c'est quoi ? C'est un excellent saucisson sec que vous mettrez dans votre sac.
Alors ça
n'a
rien à voir avec un peintre hispanisant.
Non,
c'est un saucisson.
Un saucisson sec, c'est pas facile à dire, mais pour mettre dans le sac à dos pour aller se promener sur le parcours des fées, c'est parfait.
Avec le même nom, quand vous passez à la frontière, c'est autre chose. Ici, saucisson, là-bas, un très grand peintre.
Samedi en France. William Lémergie.
Alors, dans Samedi en France, sur Europe, précisément, nous aimons provoquer chez vous une interrogation du genre... alors, je vais faire le gars qui s'interroge. Hein. Tiens, ça, je connaissais pas.
Ah, vous faites ça bien.
Ah, mais, non ? Ah, ça, je connaissais pas. Eh bien, là, vous allez voir. On est à peu près sûr de notre coup. Nous sommes dans le Périgord, face au château de Biron, qui est original à plus d'un titre. D'abord, il appartient à la même famille depuis 24 générations. Et ensuite, c'est un gigantesque, si vous voulez, livre ouvert. Elvis, je me suis pas trompé là, ça va?
C'est parfait, hein, parfait, Lev William, c'est ça. On est sur plus de 1000 ans d'histoire en un seul lieu. Et rien que ça, c'est pas banal, vous l'avez dit. Et il y a toutes sortes d'architectures qui cohabitent. Alors, il y a le donjon du Moyen-Âge qui est à côté de la chapelle de la Renaissance. Rien que ça, déjà, c'est un beau programme architectural.
Alors, j'ai une photo sous les yeux. Et vous allez voir, quand ils ont vu ça, les producteurs de cinéma, ils sont venus y tourner. Et ils y tournent régulièrement pour des films d'époque comme, alors si vous vous souvenez, Jacques le Croquant, c'était une série télévisée, Le Pacte des Loups, La fille de D'Artagnan,
c'est
il me semble bien, avec Sophie Marceau. Cela dit, c'est plus qu'un château. Gavin, Clémenté, Ruiz et son guide du routard, ils le savent, et même ils connaissent la route qui y mène. Alors allons-y, on emprunte la route, on est où?
Alors, le château de Biron, William, il est situé entre Bergerac et Villeneuve-sur-Lot, c'est dans le département de la Dordogne, que l'on appelle dans ces lieux le Périgord pourpre.
Ah oui, il faut savoir ça, Périgord pourpre, ne pas confondre avec le Périgord noir, bien sûr. Alors j'ai dit à l'instant que c'était plus qu'un château, bon alors maintenant il faut expliquer pourquoi.
Alors, oui, c'est un château témoin de l'histoire de la région, il abrite des collections d'art, mais il assure aussi une programmation musicale très éclectique, ça va être super pour l'été. Et là, on bascule complètement dans la modernité, un château moderne. C'est pas mal ça.
Pas mal, c'est même bien. Nous sommes en ligne avec Sébastien Caillet, qui est responsable du château, pour en savoir un petit peu plus sur ce château de Biron, qui est bien vivant. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Alors, ce château, on disait là avec Gavis, qui joue sur plusieurs registres, témoin de l'histoire. Ça, on a compris. Mais aussi, c'est la porte ouverte sur l'art d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez souhaité ce mélange qui finalement se révèle très harmonieux, hein?
C'est vrai. En fait, c'est parce que c'est tout simplement l'essence même de ce château. Hein. Biron l'a dit, voilà, c'est 1000 ans d'histoire qui sont encore en élévation. On a toutes les époques qui sont encore là.
Oui.
Ce qui en fait ni un château fort, ni un château classique, ni un château renaissance. C'est tout ça en même temps. Et notre mission aujourd'hui, voilà, c'est de poursuivre cette incroyable genèse pour continuer d'en faire un fabuleux château qui est quand même l'un des plus grands du sud-ouest de la France par sa taille. Hein.
Oui, mais je suppose que comme tous les propriétaires de bâtiments de ce genre, c'est pas facile à entretenir. Donc, il vous faut des visiteurs. Quand je dis visiteurs, je pense pas simplement au film. Hein. Il faut des gens qui viennent et pour pouvoir le faire vivre précisément. Alors, dites-moi quels sont ceux, les propriétaires, par exemple, des lieux, les Gontaux. On dit qu'ils ont eu, à l'époque, hein, ils sont là depuis longtemps, des relations un peu tendues avec certains rois de France. Pourquoi ils étaient un peu rebelles, les Gontaux?
Alors, les Gontaux-Biron. Alors, rares sont les familles qui ont été aussi liées, hein, à travers toute l'histoire de France, à la grande histoire. Il faudrait des heures, hein, pour tout vous raconter. Hein. Ils ont été guerriers, bâtisseurs, archevêques, barons, maréchaux, ducs, pairs de France, fervents révolutionnaires aussi. Ils ont été révolutionnaires. Oh. Enfin, ils connurent les plus grands titres honorifiques, mais aussi les pires disgrâces de l'histoire, comme Charles de Gontaux-Biron, qui était duc, pair et maréchal, qui a trahi son meilleur ami, qui était à cette époque-là Henri IV. Hein, rien que ça, le roi Henri IV. Et oui, et forcément, il va le payer de sa vie. Hein.
Il s'appelle les Gontaux-Biron.
Oui, c'est les Gontaux-Biron.
Du nom du château. D'accord. Et mais ils ont bien résisté, finalement, dans leur bastide gigantesque. Ils étaient un peu tranquilles, hein, un peu loin de tous ces rois qui leur voulaient du mal. Et le château est impressionnant quand on le voit comme ça. Il domine la région. C'était une place forte à l'époque.
Oui, c'était une place forte très importante. Hein. Le château, au Moyen-Âge, il va connaître 5 sièges. Hein. C'est une énorme forteresse. Il sera pris par 2 fois, hein, tout de même, hein, faut le reconnaître. Mmh. Et par contre, on a un panorama du coup autour de ce château à plus de 30 km à la ronde. Hein. C'était vraiment une place très très bien située pour pouvoir justement protéger ce territoire qui était bien immense à l'époque et très important.
Mmh. Alors, il continue d'être habité ou par des Gontaux-Biron?
Et non, parce que maintenant, c'est le département de la Dordogne qui protège ce château comme la prunelle de ses yeux. Hein, ceux qui l'ont acheté en 1978 pour le sauver de la ruine, hein, car il était en très mauvais état.
Oui.
Par contre, moi, je vis toujours sur place. Hein, vous voyez, je suis dans le château toute l'année.
Ah bon? Ah ben donc vous y habitez?
Oui, j'y habite en tant que gardien et responsable des lieux.
Alors, ce qui est frappant, Benjamin, si on a dit un mot, c'est cette succession d'architecture de toutes les époques et que le château a traversé. Mais quand on voit la photo, en cherchant, on se dit « Ah oui, tiens, ça doit être de tel siècle et celui-là, c'était juste avant, juste après. » Mais ça marche, quoi, ça match, comme on dit maintenant, parce qu'on a l'impression que c'est une seule et même chose. Hein. C'est comme un livre d'histoire, c'est vrai, quand on passe de l'un à l'autre.
Exactement, c'est vrai que quand on arrive au pied du château, on a l'impression de voir une forteresse encore unifiée dans son architecture. Ça, c'est dû aussi à la belle couleur de la pierre du Périgord, hein, qui est une belle pierre dorée. Ouais. Et c'est vrai que ça apporte vraiment un côté unifié, alors que finalement, on a vraiment toutes les époques qui s'entremêlent et qui en font un château unique en son genre.
Oui, et puis quand le soleil tape dessus, ce qui est le cas de la photo, où là, on est plein sud, ouais. c'est tout doré. Alors, il y a sur le parcours de la visite, vous avez installé des jeux. De quoi s'agit-il?
Alors oui, il y a des jeux en bois, tout simplement parce que pour nous, c'est important qu'il y ait des moments où les gens puissent s'amuser aussi dans ce château, qu'ils puissent se l'approprier. Donc il y a des jeux en bois, des jeux de pistes, des animations, comme aussi la frappe de monnaie, qui permettent aussi de plonger les visiteurs dans cette époque-là. Hein. Ils font aussi du tir à l'arc. Ouais. Et ça permet aussi des petits moments de respiration durant la visite, hein, parce que c'est quand même une visite très dense, où on apprend beaucoup de choses et on traverse beaucoup de salles, donc forcément il faut aussi des moments de partage, comme ça, en famille ou entre amis, dans le château.
Ouais. Alors, un mot quand même sur l'exposition d'art contemporain. Là encore, c'est un mélange des genres. C'est volontaire de votre part.
Oui, c'est volontaire parce qu'il faut continuer d'écrire l'histoire de ce château. Un Biron ne peut pas être un château qui va s'endormir dans une certaine époque puisqu'il y a toutes les époques. Donc il faut continuer d'écrire cette histoire. Et cette année, on accueille une exposition exceptionnelle. C'est un événement pour la région. On accueille une exposition inédite réalisée sur mesure pour le château. Une exposition qui sera sur Chessac. Ça va être pour nous l'occasion de parcourir l'art brut, hein, le mouvement de l'art brut, avec des œuvres de Braque, de Dubuffet et même de Picasso.
Ah oui, quand même. J'allais dire, ah bon, il y a peut-être des petits artistes que l'on ignore. Non, erreur, là. Ceux-là, c'est des stars.
Erreur.
Alors, et là encore un lieu, comme on l'a vu précédemment, dans un autre genre, où l'art contemporain, mais l'art contemporain accessible, ça permet de changer. Et sur place, bon, on a un mélange formidable. Merci beaucoup, Sébastien, pour la visite rapide. Alors, mais pour une visite plus longue, je recommande aux auditeurs d'Europe 1 d'aller sur place. Franchement, vous ne serez pas déçus, d'autant qu'il y a aussi des visites nocturnes, avec un bonus que j'aime bien, là. C'est le bonus, c'est l'apéro.
Ah, et je reconnais bien là.
Voilà, au revoir Sébastien.
Au revoir.
Merci, bon après-midi. Alors, Monsieur Gavitz, comment faire pour visiter ce château? On va où? Alors, ça change un peu des châteaux un peu figés, quoi, un peu poussiéreux.
C'est ça, c'est un château moderne, hein, on l'a dit, c'est ça, ça bouge, c'est un château qui vit et qui continue de vivre. Et pour continuer à le faire vivre, il faut aller le visiter. C'est de 10h à 19h cet été. 9 euros pour un adulte, 6 euros pour les moins de 13 ans. Et vous pouvez aussi avoir la visite VIP, comme ils l'appellent, à la tombée du jour, quand tout le monde est parti. Vous pouvez visiter certaines parties qui sont pas visibles au public, ça aussi c'est sympa. Et vous avez l'apéro qui est inclus, ça aussi, avec modération bien sûr. Là c'est 25 euros par personne.
Il y a un concert, non?
Oui, il y a des concerts aussi tout l'été. 30 euros là pour la visite du château et le concert. Donc vraiment c'est le château vivant par excellence, le château de Biron. Et on met toutes les informations sur europe1.fr.
On ne dort pas dans des cabanes comme précédemment, des cabanes d'art contemporain. Non, il y a de quoi dormir, mais il faut aller un peu plus loin.
Ouais, alors c'est tout aussi insolite, ça s'appelle les bien nommés châteaux dans les arbres. C'est à Neugat-les-Clottes, au domaine de Puybéton. C'est à 20 minutes du château de Biron.
Oh non, c'est joli comme tout ça.
C'est beau.
Ça s'appelle Neugat-les-Clottes.
Le domaine de Ouais, c'est le nom du village. C'est le domaine de Puybéton. C'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à construire des cabanes, cabanes en bois inspirées des châteaux du coin. Et vous pourrez, c'est tout en bois, donc, et on retrouve la cabane qui est inspirée du château de Biron. Ah ouais. Donc, comme ça, vous pouvez, c'est très, très imagé, c'est beaucoup plus petit, bien sûr, mais vous avez la cabane en bois avec le spa pour deux personnes sur l'eau, comme ça. C'est vraiment sympa, vous dérivez, non, vous êtes au bord de l'eau, c'est assez agréable. Ça s'appelle les châteaux dans les arbres, et c'est à partir, alors, c'est pas donné, 270 euros la nuit, mais vraiment, c'est une expérience unique. Vous faites la visite au château, vous faites le petit concert, et vous allez dormir dans les châteaux dans les arbres.
Château dans les arbres, à Neugat et Clotte.
C'est beau.
Samedi en France sur Europe 1.
Allez, on passe maintenant à un site du savoir-faire. C'est une des catégories, une des quatre catégories de cette émission, savoir-faire français évidemment, qui s'exprime cette fois-ci dans une fabrique qui est la dernière du genre. D'abord, un mot sur la région, c'est l'Orne, en Normandie, et très précisément le pays d'Ouche. Si vous êtes un lecteur de La Comtesse de Ségur, vous savez de quoi je parle. C'est une belle région, assez verdoyante, avec de nombreux cours d'eau. On y trouvait d'ailleurs autrefois plusieurs forges. Et l'un ne va pas sans l'autre. Forge, cours d'eau, et pour cause, comme va vous le révéler maintenant M. Gavin Clémenté-Ruiz, avec son guide du routard. Alors, ouvert à la page M majuscule, manufacture,
c'est ça.
S'il vous plaît.
Exactement, il s'agit de la manufacture Bohin, B-O-H-I-N. C'est une fabrique d'autrefois qui est la dernière à produire des aiguilles et des épingles en France. Rien que ça, c'est magique. Elle existe depuis le 19e siècle, cette fabrique, cette manufacture Bohin. Mm-hmm. Et la région est riche en minerais de fer, ce qui explique la présence d'industries, il y en avait plusieurs autrefois, ouais, qui fabriquent des objets en métal. Il fallait aussi de l'eau en abondance, vous l'avez dit. Et c'est le cas, là, dans l'Orne.
Et alors évidemment, comme à chaque fois, sinon on n'en parlerait pas, ça se visite.
Oui, bien sûr. Et là, il s'agit des ateliers de fabrication qu'on va aller voir. Mmh. Et à mon avis, je pense que vous n'en avez pas vu beaucoup du même genre. Mmh. En plus, ils ont eu vraiment la bonne idée, à la manufacture Bohin, d'installer un musée à côté qui explique toute cette industrie qui était vraiment très très prospère à l'époque.
Mmh. Bon, pour en savoir un petit peu plus, nous sommes en ligne avec Audrey Régnier qui est directrice générale de Bohin France. Bonjour madame la directrice, bonjour. Bonjour Audrey.
Bonjour William.
Alors, j'ai lu que dans... ça vous plaît hein, quand je vous appelle madame la directrice. Hein.
Ah, je suis plus habituée à madame la patronne avec mes collaborateurs, ce qui est encore plus bizarre.
Ah, c'est pas mal ça. Bonjour patronne. C'est bien le matin. Dites-moi Audrey, j'ai lu que dans la région, il y avait à l'époque, hein, alors je ne sais pas quelle époque d'ailleurs, 450 aiguilleries dans ce pays doux. C'est incroyable, c'est un véritable nid.
Oui.
Et ce qui veut dire qu'autrefois, on utilisait beaucoup plus d'aiguilles et d'épingles qu'aujourd'hui, je suppose.
Oui, alors à l'époque, en fait, sans aiguilles et sans épingles, on pouvait pas s'habiller. Alors, c'est le cas encore aujourd'hui, mais la fast fashion fait qu'on déborde de vêtements partout dans les magasins. Mais il y a très longtemps, si on voulait s'habiller, et il fallait qu'on s'habille, on n'avait pas d'autre choix que de le faire par soi-même. Donc, les aiguilles et les épingles étaient les outils prépondérants du quotidien.
Ben oui, mais en fait, quand on dit autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens dans les années 50, quand certains d'entre nous étaient tout petits, que je connais, on allait chez la couturière. Moi, j'accompagnais ma maman chez la couturière.
Ça s'est perdu un petit peu, mais ça revient. Ça revient un petit peu aussi. Mais les gens s'en sont pas soi-même beaucoup.
Mais la maison Bohin que vous dirigez, patronne, est toujours là. Vous avez résisté. Alors qui sont vos clients aujourd'hui?
Nos clients, principalement, on vend en B2B, donc aux professionnels. Donc nos clients sont des magasins de tissus, donc des grandes chaînes connues par tous en France. Mmh. On vend aussi à des grossistes qui revendent à des merceries. On vend aussi à des fournituristes. On va dire que c'est les principaux marchés. Mais on est vraiment basé, nous, principalement sur l'accompagnement des professionnels.
Voilà. D'accord, des professionnels. Mais je pensais aussi aux aiguilles, tout simplement. C'est du matériel médical aussi, probablement, non?
Non, nous, on est simplement en mercerie. On est vraiment sur de couture. Le médical, c'était une histoire commune, mais ça fait plus de 20 ans qu'on a arrêté le médical.
D'accord. Alors, un mot sur le fondateur de la manufacture. Il avait, me dit-on, deviné que le principal concurrent, à terme, bien sûr, ça serait la Chine. Il ne s'est pas trompé?
Non, il ne s'est pas trompé. C'était vraiment un fondateur très visionnaire, humaniste, voyageur. Aujourd'hui, l'ADN de l'entreprise se recentre beaucoup en fait sur notre fondateur. C'est pour ça d'ailleurs là, on va fêter cette année ses 200 ans de naissance. Mais son ADN en fait coule toujours aujourd'hui dans les veines de l'entreprise. Et même si nous avons une casquette en négoce international et je ne suis pas du tout anti-Chine, mais je trouve que quand même notre raison d'être et notre mission est de faire revenir un maximum de merceries françaises.
Et oui.
Donc c'est ce qu'on s'active en fait à le faire et on y arrive. Donc tous les ans, on fait revenir des productions en France et c'est vraiment une très grande fierté.
Mmh. Et vous vendez dans le monde entier ou c'est exclusivement en France?
Non, 70% de notre marché est français, donc 30% à l'export. Mmh. Et donc, on vend dans 40 pays avec le premier marché qui est les États-Unis. Oh. Puisqu'aux États-Unis, ils adorent nos aiguilles pour le patchwork.
Ah bon?
Ah voilà. Oui. Ah, le Made in France a vraiment la cote. Quand on part aux États-Unis, on fait 3 salons par an là-bas. Les Français sont très aimés, voilà, des Américains. Et nos aiguilles plus particulièrement, puisque ce sont de véritables...
Il y a certains produits qu'ils boudent parfois. On a déjà vu du foie gras dans les égouts avec du vin rouge. Mais French aiguille, alors ça, ils aiment.
On amènera ça la prochaine fois, cadeau. Plutôt qu'une bouteille de vin.
On dira,
une aiguille bois.
Elle connaît très bien French aiguille. Alors là, hop, on ouvrira les portes. Qu'est-ce que vous montrez dans votre visite guidée?
Alors la visite guidée est très particulière puisqu'on ouvre de façon totalement transparente et de façon très authentique nos ateliers de production. Donc vous rentrez à l'intérieur de l'usine sans aucun guide. Ah. Donc vous discutez en fait avec nos salariés, vous n'avez personne qui vous accompagne, c'est simplement dans l'échange et la discussion qu'on vous apprend en fait à découvrir un savoir-faire. C'est la transmission aussi des belles choses en fait finalement avec cette visite. Donc ça commence par vraiment cette immersion totale et très naturelle dans notre usine, dans notre atelier de production même. Et à la suite vous avez un grand musée très ludique et très original qui vous accompagne pour vous expliquer un petit peu la région, l'histoire de l'entreprise, etc.
Mais en tout cas, ça, c'est une bonne idée, patronne. Hein, parce que, franchement, non, mais nous, avec Gavin et toute l'équipe, ici, on fait ça toutes les semaines dans cette émission sur Europe 1. Mais là, l'échange direct avec les employés, c'était extrêmement rare. C'est très technique de fabriquer une aiguille aujourd'hui?
Ah oui, c'est très technique. Il faut savoir qu'il faut 27 étapes et 2 mois de production pour sortir une aiguille. Alors, on n'imagine pas, on a l'impression que ça rentre d'un côté dans une machine, ça rentre de l'autre, c'est bon.
Oui.
Et en fait, non, c'est très très complexe. L'aiguille, ça fait plus de 20 000 ans qu'elle existe. Ça a été inventé donc au Moyen-Âge, à la préhistoire. Ça s'est développé donc au Moyen-Âge. Mais c'est un véritable outil, donc ça ne se fait pas facilement. Il y a plein d'étapes très compliquées. Et on a essayé de diminuer, on a essayé d'augmenter pour voir ce que ça changeait. Non, c'est la meilleure recette, 27 étapes, 2 mois de production.
Alors, comme d'autres sites très différents que nous avons évoqués aujourd'hui, on essaye de temps en temps de trouver des lieux communs à ces 4 sites que nous montrons dans cette émission chaque semaine. Vous faites aussi, vous, une place à l'art contemporain, c'est-à-dire...
Alors, pour faire revenir en fait les gens en local, puisqu'on est vraiment dans le pays d'Ouche, on est dans l'Orne qui est un peu méconnu des touristes, hein, donc pour faire revenir les touristes mais aussi faire participer les locaux de façon plus régulière, on a ouvert toute une salle d'exposition, donc on a 400 mètres carrés et on fait venir à l'intérieur de l'art textile qui est un art assez méconnu en France, donc vraiment l'art textile contemporain, plutôt classique, et donc on explique aux gens que finalement en fait la couture c'est pas simplement de l'habillement, c'est pas simplement de l'utilitaire, mais il y a une vraie dimension artistique et on accueille des artistes alors français, mais aussi du monde entier en fait qui viennent exposer chez nous et ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois.
Ça
permet une véritable ouverture d'esprit avec nos produits.
Et ça enrichit la visite évidemment. Écoutez, on en sait déjà pas mal pour permettre à ceux qui nous écoutent de vous rendre visite. Merci beaucoup Audrey. Merci Madame la directrice. Merci, chère patronne. Vous direz bonjour à tous vos collaborateurs. Voilà.
Je leur dirai.
Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Alors, Gavin, comment fait-on pour visiter ce lieu tout à fait étonnant, là, dont on ne soupçonne pas l'existence? Et vous vous rendez compte, ça existe depuis tellement longtemps.
Ah, ça fait pas loin de 200 ans.
C'est la dernière.
C'est la dernière usine de fabrication d'aiguilles.
Si vous passez par là, franchement.
Aller visiter la manufacture Bohain dans l'Orne. C'est en gros ouvert de mars à octobre, tous les jours sauf le dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Ça coûte 12 euros par adulte et il y a un forfait tribu, j'aime bien ça, tribu, 40 euros, 2 adultes, 3 enfants. bien sûr, nous mettons toutes les informations sur europe1.fr.
Alors, pour dormir dans le coin, la région est très belle, mais elle n'est pas assez connue, elle vient de le dire. Audrey, profitez-en, une adresse.
Eh ben oui, pour se plonger dans l'univers de la comtesse de Ségur, on va aller dormir au Dauphin, c'est à Moulins-la-Marche.
Moulins-la-Marche, je connais ça, il n'y a pas un hippodrome?
Ah, peut-être, si. Oui, l'hippodrome de Jean Gabin, juste à côté. Et
bien joué.
C'est là, entre le Pays d'Ouche et le Perche, l'Aigle Essai, on n'est pas loin de la ferme et de l'hippodrome, justement, de Jean Gabin. C'est un hôtel simple, familial, avec un petit resto qui propose une cuisine régionale. C'est 85 euros la nuit, et café offert, attention, sur présentation du routard Normandie de l'année.
Ah bon?
Et ouais, et on est comme ça.
C'est comme un passeport, quoi.
Exactement, on est comme ça au routard.
On a des tarifs quand on se balade avec le guide de routard.
Ben, si vous l'avez sur vous, si le restaurateur, l'hôtelier est d'accord, et s'il l'a prévu, eh bien, il vous offre un petit quelque chose. Ça peut être le café, ça peut être l'apéro, ça peut être le petit déjeuner. Bref,
mais c'est bon,
c'est un passeport, en effet, vous l'avez bien dit, William.
Très bien, mon petit gars. Dans un instant, un site de plein air. Alors, c'est une escalade, comme on en fait rarement. On s'attaquera à deux terrils dans le nord, les deux plus grands d'Europe d'ailleurs. Ah bah oui, il y a pas de raison. Dernière usine, le plus grand terril. C'est comme ça dans ces missions, sinon on le ferait pas quoi. Mais avant ça, je vous propose d'écouter les confidences de l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac au micro de Daniel Moreau. Il est resté très attaché à la ville de son enfance. Il est question de France bien sûr et plus spécialement de Lyon. Il vous propose lui aussi une visite guidée du parc de la Tête d'Or au Traboule.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Clovis Cornillac.
Bonjour.
Alors vous êtes un gone, c'est ça, un enfant de Lyon?
Ouais, un gone.
Pour un petit garçon, Lyon, c'est un terrain de jeu. Et si vous avez des petits conseils à nous donner si on passe dans cette belle ville, qu'est-ce qu'il faut pas rater?
Ah ben, alors il y a plein de choses à pas rater. Évidemment le parc de la Tête d'Or parce que c'est un endroit c'est le Central Park de Lyon. C'est un parc splendide avec un zoo et tout. Enfin un endroit vraiment très très beau. Et il y a un moment tu peux passer sous le lac parce qu'il y a un lac et puis il y a une petite île avec un monument aux morts. Bon, c'est pas très gai, mais il n'empêche que le monument est très beau. Mais surtout, pour y accéder, tu passes sous l'eau, comme le pont sous la Manche, et tu y vas à pied, tu marches sous la flotte, sous le lac, et les gamins, ils adorent. Et puis, c'est vraiment un bel endroit, un beau parc, si t'aimes courir, marcher, faire du vélo, enfin, c'est vraiment top. Ça, je le conseillerais, j'adore cet endroit. Maintenant, les quais de Saône ou les quais du Rhône, c'est quand même une des forces de cette ville et des magies de cette ville, c'est qu'on a deux fleuves. Et donc, qui en fait une ville quand même très particulière. Une ville à deux fleuves qui se rejoignent avec la confluence des deux, qui est un quartier maintenant, mais les quais, depuis maintenant quelques années, ont été vraiment aménagés. Et là aussi, ça vaut vraiment le coup de s'y balader. T'as des péniches où tu peux boire des canons, où tu peux manger, tu peux faire des kilomètres, aller jusqu'à la Tête d'Or, justement jusqu'au parc de la Tête d'Or, traverser tout Lyon. Et c'est un vrai bonheur de marcher sur ces quais, aussi bien ceux de la Saône que du Rhône. C'est très différent, c'est pas la même ambiance. Mais c'est très, 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 très chouette. Donc ça, c'est un endroit aussi que je pourrais recommander. Évidemment, Saint-Jean-Saint-Paul, c'est les vieux quartiers de Lyon, ce qu'on appelle le Vieux Lyon, où tu as tout ce qu'on connaît comme les traboules. Et traboules, c'est fascinant parce que c'est... En fait, tu rentres dans un immeuble et tu peux ressortir quatre rues plus loin, ce qui aidait beaucoup la résistance à l'époque de Jean Moulin et d'autres. Je trouve que la traboule et le Vieux Lyon ressemblent à l'esprit lyonnais. C'est-à-dire que si on veut comprendre, je pense, le Lyonnais, il faut comprendre l'architecture de cette ville à ces endroits-là. C'est-à-dire que c'est pas toujours direct. Il y a des chemins de traverse.
Ouais.
Et en même temps, c'est une ville du secret. Il y a un côté comme ça très italien, très un peu Médicis là-dedans, et le culte du secret aussi. Si on veut comprendre Lyon et voir aussi cette architecture qui est, par exemple, vraiment ça fait penser à l'Italie du Nord, à plein d'endroits. Graphiquement, c'est très beau.
Je vais la faire, c'est magnifique Lyon.
Ouais, c'est magnifique, ouais. C'est
transition magnifique, ouais. Très facile avec votre film que j'ai adoré. Ça y est, là vous êtes réalisateur, j'ai l'impression que vous prenez un plaisir fou et à chaque fois vous nous surprenez parce que là vous avez pris la forme d'un conte, on va appeler ça, je sais pas comment vous le définiriez vous.
En fait, j'ai beaucoup de mal à le mettre dans une catégorie et j'ai eu la chance de présenter le film à travers la France avant sa sortie dans 70 villes. Donc j'ai rencontré beaucoup de public. Ce qui est très chouette, c'est qu'ils ont vraiment aimé. Ça leur évoque d'autres films. Et alors, c'est pour ça que je dis, là, c'est le public qui me l'a dit, parce que sinon, ça fait prétentieux et tout ça. Et franchement, je me compare pas à ces grands réalisateurs ou à ces grands films. Mais je vois où il y a un cousinage. Et ce qui revenait à chaque fois, pendant toute cette tournée à présenter le film, revenait Amélie Poulain, revenait Forrest Gump, revenait Tati, les films de Jacques Tati, revenait les films de Tim Burton.
Alors que vous soyez à Lyon ou ailleurs, eh bien, ne manquez pas, c'est magnifique, de et avec... Clovis Cornillac, merci Clovis.
Merci.
Merci Daniel, merci Clovis. Ça va, la référence à Amélie Poulain, Forrest Gump, pas mal. Hein. on le retrouve donc dans ce film, et qui vient de réaliser, alors il y joue bien sûr aux côtés d'Alice Paul. Alice Paul, il faudra aller lui rendre visite aussi, parce que désormais elle habite en province. et elle vient travailler de temps en temps à Paris. Elle vous dira peut-être, si on la rencontre, pourquoi elle habite loin de la capitale. Alors ça s'appelle « C'est magnifique » ce film.
Samedi en France, William Lémergie sur Europe 1.
Dans la dernière partie de cette émission, réservée à ce que nous appelons un site de plein air, direction le Nord, pour une escalade. Alors, a priori, vous dites, tiens, ça s'arrange pas, des montagnes dans cette partie de la France, c'est peu probable. Exact. Donc, c'est autre chose. Et pourtant, c'est très, très haut. C'est bel et bien une escalade. Alors, il s'agit, je ne vais pas faire attendre de 2 ans. Hein. Il s'agit des deux plus grands terrils jumeaux d'Europe. Ah oui, c'est pas n'importe lequel. Drôle d'ascension, vous dites. Eh ben, on est d'accord avec Monsieur Gavin qui est monté Ruiz. Et alors, moi, j'ai trouvé ça dans le guide du routard. D'abord, un terril, c'est quoi? Petit rappel, hein, bien sûr, c'est ce que c'est. Et pourquoi y en a-t-il deux là? Ça se trouve où précisément? J'ai donné le nom, mais ça mérite de le redire.
Eh bien, on propose aussi des escalades, surtout quand elles sont originales, William. Et c'est le cas aujourd'hui. On est à Losangoël, en effet, à la périphérie de la ville de Lens, qui est en plein renouveau, hein, Lens, depuis l'arrivée il y a 10 ans du fameux Louvre-Lens qu'on fête cette année. Les terrils, bah, ce sont ces immenses tas qui ont été formés par les déblais d'une mine, tout simplement. Et ils sont toujours là dans le paysage. Et pour le même prix, là, vous en avez pas un, mais deux. Et il est possible de les gravir.
Alors, c'est ça la bonne idée. Ces terrils ne sont pas à l'abandon. Il y en a d'autres qui le sont. Bah, on les laisse là parce que c'est ce qu'on en fasse. Mais eux, on les utilise. C'est haut, non?
Eh bien, oui. Ils font près de 200 mètres de hauteur. Alors, OK, c'est pas le Mont Blanc, mais c'est une vraie ascension. Et on a une vue très belle sur quand vous arrivez au sommet, quand vous gravissez tout doucement ces deux terrils.
Et tout le monde peut grimper. On n'a pas nécessairement fait les Jeux Olympiques pour aller là-haut,
non,
ça va.
Pas nécessaire, vous allez grimper petits et grands, il n'y a pas de souci, et même les chiens sont autorisés.
Ah oui, bienvenue.
C'est parfait pour la balade.
Bon, alors, pour en savoir un peu plus quand même, nous sommes en ligne avec Florence Louvenagel, la responsable communication de l'office de tourisme de Lens-Liévin. Bonjour, madame la responsable. Bonjour, Florence. Quand on m'a dit terril, moi je les voyais tout noirs, vous savez, comme au temps où ils ont été élevés, mais là, c'est plus tout à fait le cas, il y a pas mal de verdure.
Oui, effectivement. Alors, tout dépend de la période à laquelle vous venez, mais quand vous venez l'hiver, c'est lunaire, en fait. C'est très brut, c'est très noir. En revanche, au printemps, en été, on est sur un paysage finalement très naturel, alors qu'au départ, ça ne l'est pas.
Alors, il faut expliquer deux choses. C'est que le terril, quand on marche dessus, c'est assez dur. C'est pas de la poussière, c'est pas de la terre dans laquelle on s'enfonce. On peut marcher dessus. Et puis, le parcours, il serpente autour du terril. C'est ça?
Oui, en fait, on a des chemins qui sont complètement aménagés. Alors, il faut juste prévoir quand même de bonnes chaussures. Hein. On va éviter les sandales, mais les avec tongs. Des baskets ou des chaussures de marche, oui, des tongs, c'est pas forcément conseillé. Mais des chemins sont aménagés et vous pouvez effectivement librement circuler sur ce terri et puis le gravir à votre rythme. Hein. Les petites jambes sont aussi acceptées.
D'accord. Quand on voit, j'ai une photo là, on voit des marcheurs, des promeneurs, mais c'est tout petit le promeneur par rapport au terril. Je pensais pas que c'était aussi immense que ça. C'est vraiment une montagne, quoi. Quand on voit en plus la photo qui est en bas, quand on est dans la ville et qu'on regarde ça, c'est gigantesque. Alors, quand on se promène, on fait ça avec un guide, un vrai guide, ou alors c'est un audio guide, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la mine à l'époque, quoi.
Oui, alors effectivement, d'abord c'est immense, hein, ce sont vraiment des géants hein, qui se détachent dans le paysage et ça attire évidemment la curiosité. On a envie de savoir, on a envie de monter et de comprendre pourquoi ces éléments sont dans le paysage. Et donc effectivement, on a des visites guidées très régulières avec une association qui s'appelle la Chaîne des Terris, qui propose des visites guidées gratuites très régulières sur ces terris pour expliquer à la fois comment ils ont été conçus et puis donc l'histoire de la mine et puis en même temps ce qu'on y trouve. Puisque, comme vous le disiez, il y a un vrai retour à la nature et donc une faune, une flore qui est très spécifique sur les terris. Et donc, les guides donnent aussi ces informations. Mais on n'est pas obligé d'y aller avec un guide. On peut y aller complètement librement, gratuitement. Certains prennent leur petit déjeuner le matin au lever du soleil là-haut. D'autres profitent du coucher. D'autres viennent s'entraîner pour de grandes courses, puisqu'effectivement, on a un dénivelé qui est très fort. Ouais. Donc, c'est l'occasion aussi de venir courir sur les terris pour les plus sportifs. Ouais.
Alors, comment dit-on? On dit les terris ou les terrils?
Alors, le L ne se prononce pas exactement comme dans fusil.
Ah ouais.
Voilà. Voilà. Donc nous, on a l'habitude de dire que c'est comme ça qu'on reconnaît les touristes, mais les gens d'ici ne disent pas le L.
Oui, bonjour Florence. William, touriste, il a dit Terril.
Voilà, c'est comme vous voulez pour les présenter.
Voilà, et donc il fallait que je dise Terry.
Évidemment.
Bon. Alors, je dis, ils sont gigantesques. Faut peut-être expliquer quand même pourquoi toute cette terre, ce sont les remblais, parce qu'on creusait évidemment pour la mine et on savait pas où la mettre. Bon, là, on la mettait les unes sur les autres, tous ces remblais là, les uns sur les autres, plus exactement. Non, c'est ça, tout simplement.
C'est exactement ça, en fait. Ce sont les sous-sols, hein, juste à côté, l'exploitation minière à Los Angeles, les mineurs descendaient à 800 mètres sous terre. Donc
800.
Là aussi, c'est assez gigantesque.
Ah,
voilà,
c'est...
quand on se rend compte.
Ah oui.
800 mètres sous terre, et donc on creusait des galeries, on remontait tout ce qui s'y trouvait, charbon comme autres roches,
oui.
Et puis au jour, le charbon était trié d'un côté, et les autres roches qui étaient terriles,
oui.
C'est comme ça aussi que Terry a pu apparaître, étaient posées finalement sur le côté, et ça a donné les
terriles.
Donc au fur et à mesure, on a remis le sous-sol au jour.
Et on aurait pu l'étaler, cette terre, j'en sais rien, mais non, on a préféré l'accumuler de sorte qu'on est face à des montagnes. Combien de temps ça dure à peu près la promenade pour aller jusqu'en haut?
Nous, on compte une heure pour monter et descendre à un rythme tranquille. Donc, c'est une bonne petite balade. Voilà. Après, tout dépend le temps qu'on met au sommet pour contempler le paysage, combien de temps on s'arrête pour faire la pause ou pour regarder les fleurs qu'on croise. Mais en général, on compte une heure pour monter et descendre sur les terrils.
Alors, vous avez parlé de fleurs qu'on croise, normal, puisque ça a verdi, en tout cas, à la belle saison. Mais on croise aussi des petits animaux. Dont on m'a parlé et on ne s'attend pas à les voir là. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ou de quoi il s'agit?
Oui, donc effectivement, si on est un peu silencieux ou simplement observateur, on peut croiser des lézards des murailles. Alors, c'est assez étonnant de dire que dans le nord de la France, on peut trouver des lézards. Mais effectivement, ils adorent les sols chauds des terrils. Comme il est quand même noir, même si on a du vert dessus, le sol est noir, il peut faire très chaud sur ce sol. On peut atteindre jusqu'à 70 degrés l'été. Et donc, effectivement, on parlait des chiens tout à l'heure. L'été, il vaut mieux pas les emmener parce que leurs petites pattes peuvent souffrir. Mais effectivement, les lézards adorent cette chaleur sur le sol. Et donc, on peut très facilement en croiser en se promenant sur les terrils. Oui, c'est assez étonnant.
C'est très étonnant. Il y a un jour, il y a eu un lézard. Il est arrivé du Sahara. Il est venu faire du tourisme dans le Nord. Et puis là, il a fait souche. Il a une famille. Et voilà.
Voilà, il a joué les touristes. Non, en fait, ils sont venus plutôt par les voies de chemin de fer par lesquelles le charbon transitait, ou alors simplement en venant aussi dans les écorces de pin qu'on faisait remonter pour soutenir les galeries dans la mine
du
sud.
Ah oui, bien sûr.
Donc voilà, en fait, ce sont des espèces qui se sont finalement bien trouvées là et qui ont fini par s'y installer.
Et en hiver, est-ce qu'on a le droit de descendre en glissant quand il y a de la neige ou c'est pas recommandé?
Alors, sur celui-ci, vous ne pouvez pas descendre en ski. Alors, quoique, il y a peut-être quand même quelques... Mais bon, on va éviter pour ne pas l'abîmer, parce
Mais
que
oui.
quand même, on voudrait le garder préservé.
Mais
par contre, il y a une piste de ski sur un terri, à quelques kilomètres de là. Certains l'ont fait, oui.
Bon, ben voilà, merci beaucoup, Florence, pour toutes ces explications. Franchement, je dis aux auditeurs d'Europe 1, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est spectaculaire quand on est en bas, parce que sur la photo, c'est le cas, et la promenade est très belle, surtout quand on arrive en haut. Merci beaucoup, Florence, pour toutes ces informations. Bon après-midi.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, Gavit, comment on fait pour y aller à Los?
En Goël, eh bien, c'est...
En Goël, voir le Terry.
Voir les terris.
Les terris,
parce qu'il y en a deux. C'est l'accès est libre et gratuit, comme l'a dit Florence. C'est tous les jours, toute l'année. On peut se garer juste à côté, pas de problème pour venir faire une petite balade.
Alors là, il n'est pas question d'art contemporain. Exceptionnellement, aujourd'hui, dans cette
émission,
on ne pense pas de gens de la maison. Alors là, je suis en stage, taquinerie, franchement.
Je suis sûr que je peux trouver. Ah si, vous avez le Louvre-Lens juste à côté.
Ah,
allez-y.
Ouais, ah bah bien sûr.
Là, c'est plus de l'art contemporain. C'est l'art mondial à travers le temps.
Ouais, et ça marche très bien.
Et c'est les 10 ans, donc on en profite.
Un endroit pour dormir?
Oui, les gîtes de l'école buissonnière. pas d'art contemporain là-bas, mais c'est à Lens. C'est tout proche des Terries, donc, dans l'ancienne maison du directeur de l'école. Et ouais, d'où le nom, les gîtes de l'école Buissonnière. Côté couchage, eh ben, c'est tout en bois. C'est pas l'internat. Mais il y a même un bain nordique pour vous délasser. C'est installé dans une ancienne cuve à fromage, ce bain nordique. J'aime bien ce côté détournement.
Non, mais ils ont tout nettoyé quand même.
Ah bah oui, quand même.
Vous rassurez. Vous inquiétez pas. Vous baignez pas
un
dans
petit bain
dans
le fromage. Bref, à partir de 65€ la nuit pour 4 personnes, c'est vraiment le bon plan du coin. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très chouette, les gîtes de l'école Buissonnière.
Alors, c'est l'heure de récapituler. Si vous n'étiez pas là au début de cette émission, je vous en veux pas, mais enfin, quand même, franchement.
Et vous pouvez vous rattraper en podcast.
Oui, exactement. On peut se rattraper en podcast. Alors,
on a dormi dans une œuvre d'art au début, en pleine nature, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. On a découvert ensuite le château de Biron. Là, c'était dans le Périgord, un château qui date du 12e siècle, l'archétype du château.
Mais il est de toutes les époques.
Exactement, c'est pour
ils
ça
ont construit sur les fondations précédentes.
Il y a les donjons, il y a le donjon de la forteresse, il y a toute la chapelle Renaissance, c'est vraiment très beau et ça sert aussi de décor à pas mal de films. Mm-hmm. Dans l'Orne, on a appris qu'il fallait 2 mois pour fabriquer une aiguille et une épingle grâce aux derniers fabricants en France.
Et les aiguilles françaises sont les plus apprécié aux États-Unis, ce que j'ignorais.
Ouais, c'était à la manufacture Bohain dans le pays d'Ouche. Mmh. Et enfin, nous avons grimpé au sommet des Terries de Los Angeles. On a appris à dire Terries, hein, ça je suis très heureux. Mmh. Pour une balade originale, là c'était au Grand Air, dans le nord de la France.
D'accord, comme chaque semaine, pour terminer, une expo, un film, un disque qui parle de la France et qui a retenu votre attention parmi les sorties culturelles que l'on peut proposer cette semaine. Alors,
cette semaine, je suis heureux d'être un nul, William. C'est dans la collection Pour les Nuls. Ça s'appelle L'Histoire de la Bretagne pour les Nuls. Mais cette fois, elle est illustrée. Il y a, attention, 715 pages, j'ai compté.
Oula, un dictionnaire, quoi.
Vous allez voir, c'est du costaud. Vous le mettez sur la table basse. C'est écrit par le grand historien Joël Cornette, spécialiste de l'Ancien Régime et de la Bretagne. Donc, c'est un livre hyper sérieux, mais toujours avec, vous savez, les petits encadrés qui ont fait la richesse de cette collection, qui permet d'apprendre plein de choses dans la lecture.
Puis, vous pouvez picorer. Vous n'êtes pas obligé de tout lire.
C'est ça, vous pouvez ne pas le lire en entier, juste par petits morceaux, et vous apprenez toujours plein de choses. Il y a la coutume en Bretagne, par exemple, au XVIIe siècle, qui était de toucher les plaies des cadavres, par exemple. Pourquoi? On va le découvrir en lisant, lisant cette histoire.
Pas me le dire.
Non, il faudra aller lire cette histoire de la Bretagne pour les nuls. C'est de Joël Cornette, et c'est aux éditions First.
Très bien, merci jeune homme. Merci beaucoup pour cette proposition de lecture. L'émission est maintenant terminée. Alors merci aussi à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavitz, Clément Terruis déjà nommé et Pierre Samanos. Nous vous laissons en compagnie de Bérénice Bourgueil pour son émission C'est arrivé près de chez vous. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain, c'est à 15h sur Europe 1 bien sûr, pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites. Il ne sera pas question d'art contemporain cette fois-ci. On changera. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.